encore agir ce soir au milieu de nous. Que nos cœurs soient bien disposés à entendre ta voix, à obéir à ta voix, car tu es le Seigneur, tu es notre Dieu, tu veux nous parler. Puissions-nous, Seigneur, écouter ta voix et faire ta volonté. Merci, Seigneur. Nos regards sont sur toi maintenant. Et que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu feras encore. Merci, Seigneur Jésus, pour ta sainte présence au milieu de nous. Amen. Merci, Seigneur. Le Seigneur est là. Et il veut certainement encore nous parler, nous visiter, selon les besoins de chacun, et que nous soyons surtout toujours bien disposés à écouter sa voix. Bien souvent, le Seigneur nous parle, mais nous ne sommes pas bien disposés. Parce qu'il peut nous parler, mais pas d'une manière qui nous arrange, mais d'une manière qui nous dérange. Et quand ça nous dérange, tout de suite, le cœur est fermé. Et après, on dit, mais le Seigneur, à moi, il ne m'a pas parlé. Il nous parle, mais nous ne voulons pas écouter. Nous écoutons quand nous voulons. Et quand c'est comme ça, ça ne va pas du tout, n'est-ce pas vrai? Il nous faut toujours être bien disposés. Quand il nous parle, c'est toujours pour notre bien. Quand vous corrigez votre enfant, c'est toujours pour son bien. L'enfant pense que c'est... Vous ne l'aimez pas. Plus tard, il comprendra que, quand il sera parent lui-même, que c'était bien. Mais sur le moment, il ne comprend pas. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu leur parle, les corrige parfois, mais ils ne comprennent pas. Ils pensent que Dieu est contre eux. Ou que même le prédicateur est contre eux. Moi, je ne vous connais pas si Dieu vous parle. Si une parole vous touche, c'est pas moi qui vous vise, c'est le Seigneur qui vous vise. Mais il ne vous vise pas pour vous faire tomber par terre, mais pour vous relever et pour vous faire du bien. Je voudrais juste dire quelques mots. Nous vivons des temps, bien sûr, prophétiques, n'est-ce pas ? Les temps sont sérieux et le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est vraiment à la porte. Il est plus tard que nous ne le pensons. C'est pourquoi le Seigneur peut venir à tout moment. Et s'il peut venir à tout moment, parce qu'il est dit qu'il viendra à l'improviste, au moment où les hommes n'y penseront pas. C'est au moment où personne n'y pense. On pense à tout autre chose qu'à l'arrivée du Seigneur. Il viendra à ce moment-là. Est-ce que c'est possible d'être prêt à ce moment-là? Ce ne sera pas possible, puisqu'il vient au moment où on n'y pense pas. Alors pour être prêt ce jour-là, il faut être prêt chaque jour. Il faut être prêt aujourd'hui. Et nous allons prendre l'exemple d'un homme qui est l'exemple de l'enlèvement des chrétiens. Vous avez déjà deviné qui c'est? Un homme qui marcha avec Dieu 300 ans. C'était qui? Enoch. Enoch. Hébreux chapitre 11. On parle de lui au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Il fut enlevé, un miracle. Et un jour, les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, un jour seront enlevés, comme Enoch. Hébreux 11, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. À un moment donné, un matin, tout le monde continuait de vivre comme d'habitude. Et Monsieur Enoch a disparu de la circulation. Et il ne parut plus. Mais où il est, cet Enoch ? On l'a cherché partout, il n'était plus là. Et un jour, tous les vrais chrétiens disparaîtront. On les cherchera et ils ne seront plus là. Et ce qui est tragique, c'est que dans une même maison, le mari cherchera sa femme qui était au Seigneur. Où elle est passée ? Elle n'est plus là. Où les enfants qui étaient au Seigneur ? Les enfants, où sont-ils ? Ils ne sont plus là. Ou vice-versa. L'épouse qui ne voulait pas écouter ce message, son mari, où il est ? Où il est ? Où es-tu ? Elle fait toutes les pièces de la maison, il n'est plus là. Où il est parti ? C'est plus. Disparu. Un jour, et ça va être la panique générale. La panique générale. Puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Soulignez bien le mot agréable. Alors j'aimerais dire quelques mots sur Enoch, qui avait une foi agréable. Comment avoir une foi agréable à Dieu. Si on a une foi agréable à Dieu, alors on sera certainement prêt lorsqu'il reviendra, n'est-ce pas vrai? Si on a une foi agréable, ça veut dire qu'on peut avoir une foi désagréable. Une foi qui est désagréable à Dieu et même peut-être aux autres. Mais comment avoir une foi agréable? Enoch est un symbole, là, de l'enlèvement. Il y a donc plusieurs qualités. Et on va trouver 5 qualités dans cette simple phrase. Dans Genèse 5, il est parlé de lui, il est dit que Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Vous êtes d'accord? Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, dans ces 5 pensées, la expression, il y a 5 qualités merveilleuses. Enoch marcha, on va s'arrêter à chaque mot, avec Dieu 300 ans. Alors, la première qualité d'une foi agréable à Dieu se trouve dans la signification de son nom. Vous savez que dans la Bible, les noms ont toujours un sens. Quand on donnait un nom à quelqu'un, c'est parce que cette personne allait refléter ce nom-là, le sens de ce nom-là. On ne donnait pas des noms comme ça par hasard, n'est-ce pas vrai? Comme nous, on le fait maintenant. On donne des noms, mais ça ne correspond pas du tout au caractère de la personne ou à la vie de la personne. Mais là, c'était différent. On avait donné à Enoch le nom d'Enoch. Pourquoi? Parce qu'il signifiait, vous le savez certainement, son nom signifiait consacré. Enoch veut dire consacré. Autrement dit, il était consacré à Dieu. Donc, la première qualité d'une foi agréable à Dieu, c'est d'être consacré à Dieu. Et ce mot est extrêmement fort, n'est-ce pas vrai? Dans l'Ancien Testament, quand un objet ou une personne était consacré à Dieu, cette chose ou cette personne était utile, était destinée uniquement pour Dieu et pour son service. Vous ne pouviez pas l'utiliser autrement. cette personne-là ou cette chose-là, vous ne pouviez pas dire, ah, mais ça c'est consacré à Dieu, mais je vais m'en servir pour moi. Les foudres risquaient de vous tomber dessus. Parce qu'on ne badinait pas avec ces choses. Les choses qui appartenaient à Dieu, qui étaient consacrées à Dieu, appartenaient à Dieu pour son service et pour sa seule gloire. Première qualité qui était agréable à Dieu, Enoch était un homme consacré à Dieu. Autrement dit, comme on dirait aujourd'hui, il n'était pas seulement un chrétien qui a accepté Jésus comme son sauveur, mais c'est un chrétien qui a accepté Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Voilà ce qu'il était dans le langage d'aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas consacrés. Ça, c'est pour le pasteur. Ça, c'est pour les missionnaires. Ça, c'est pour d'autres personnes, mais pas pour moi. Une simple personne, un simple chrétien, une simple chrétienne. La consécration, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Un jour, au téléphone, en France, nous avions une petite église et on avait demandé à une chrétienne de venir nous aider, comme on a aussi une œuvre missionnaire, il y a beaucoup de travail. On lui avait dit si elle pouvait venir, nous donner un coup de main. Et que, vous savez ce qu'elle nous a sorti? Elle a dit, ça, la consécration à ce point-là, travailler pour le Seigneur, ça c'est pour vous. Mais c'est pas pour moi. Alors pour elle, être consacrée, c'est seulement pour les prédicateurs ou les missionnaires. Mais elle, c'était tout à fait en dehors de sa pensée d'être consacrée à Dieu et de travailler pour le Seigneur. Alors elle avait Jésus comme son sauveur, mais elle avait renié Jésus comme son Seigneur. Autrement dit, il y a tant de chrétiens qui disent que Jésus est leur sauveur, mais ils font encore ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent, ils font comme ils veulent, ils dirigent leur vie comme ils veulent. Est-ce que c'est un bon chrétien, une bonne chrétienne, avec une bonne santé spirituelle? Quand une personne comme cela raisonne comme cela, cela dénote une grave maladie spirituelle. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Amen. Dieu nous sauve pour que nous lui appartenions. Il y a tant de versets, je ne vais pas revenir là-dessus, pour ne pas perdre trop de temps. Mais il nous a sauvés pour que nous lui appartenions. Et une fois qu'on lui appartient, il a un plan, il a un projet, il a un programme pour nous. Amen. Mais il faut d'abord qu'il y ait cette consécration et dire à partir de maintenant, Seigneur, je remets les rênes de ma vie entre tes mains. Tu me diriges où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Rien que ta volonté, toute ta volonté. Et rien d'autre que ta volonté dans ma vie. Mais ça, il faut le dire de tout son cœur. Parce qu'on est habitué à dire beaucoup de choses du bout des lèvres. Ô Seigneur, je te suivrai partout. Et dès qu'il nous dit quelque chose d'aller là-bas, il n'y a plus rien du tout. On fait la sourde oreille. On promet beaucoup de choses au Seigneur. Mais dans la pratique, il n'y a pas grand-chose. Il faut donc être conséquent. Un chrétien consacré. L'êtes-vous vraiment? Cela veut dire que non seulement Jésus vous a pardonné, mais vous devez aussi lui remettre les rênes de votre vie. Trop de chrétiens se disent chrétiens, mais ils vivent pour eux-mêmes. Ce qui compte, c'est leurs idées, leurs projets, leurs programmes, leurs volontés. Ça n'aurait jamais venu à l'esprit de dire, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma volonté que je dois faire maintenant que je suis chrétien ou chrétienne. Je dois faire la volonté de mon Sauveur, de mon Rédempteur, de mon Dieu. Je ne suis pas ici-bas pour faire ce que je veux, mais je suis ici-bas pour faire ce qu'il veut. Je lisais tout à l'heure Romains 10, verset 9, quand il est dit, si tu confesses de ta bouche le... Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu le seras sauvé. Alors attention, si tu confesses de ta bouche le quoi, le... Est-ce que c'est le sauveur? Il y a une différence là, vous voyez? On a tellement l'habitude de dire Seigneur, Seigneur, et puis qu'on fait ce qu'on veut. Comme ceux qui applaudissaient Jésus de son temps. Ah maître, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Il n'y en a pas deux comme toi. Tu guéris les malades, tu fais des choses extraordinaires. Ils étaient toujours autour de lui. Oh maître, extraordinaire. Seigneur, par-ci, Seigneur, par-là. Mais ils n'obéissaient jamais à tout ce qu'ils disaient. C'était pour eux que des belles paroles. C'était comme une musique qui les berçait. Oh, tu parles bien. C'était une musique. Ils aimaient bien ça. Mais une fois qu'ils étaient partis, la musique était finie. Ils avaient une autre musique après. Là, il y avait une autre musique qui recommençait. Et Jésus voyait cela. Et il s'est tourné un jour. Et il leur a dit, pourquoi m'appelez-vous, quoi? Seigneur, Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que je dis. Voyez-vous? Faire la volonté de Dieu est en rapport avec ce mot. Seigneur, quand on dit Seigneur, ça veut dire je veux faire ta volonté. Me voici désormais. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, ça veut dire non seulement je te demande pardon pour mes péchés, mais à partir de maintenant, une fois que tu m'as pardonné, je t'appartiens. S'il est le Seigneur, il doit être le Seigneur de tout. Sinon, il n'est le Seigneur de rien du tout. Amen. C'est par là que ça commence. Voilà pourquoi Enoch était agréable. Agréable à Dieu. C'est magnifique. C'était un homme consacré à Dieu. C'est beau cela. Et c'est pour chacun d'entre nous. As-tu remis, pas seulement ton péché, mais les rênes de ta volonté, entre les mains du Seigneur, et lui dire, Seigneur, maintenant c'est fini. J'ai voulu diriger ma vie tout en me disant chrétien ou chrétienne, mais je suis constamment sur une voie de garage. Je tourne en rond, et tu tourneras en rond pendant des années si tu ne cèdes pas enfin pour lui dire, Seigneur, pas seulement sauveur, mais Seigneur, mon Seigneur, pas seulement mon Sauveur, mais mon Seigneur. Maintenant, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. Que ta volonté seule soit faite dans ma vie, et non la mienne. Voilà ce que Dieu attend de vous. Voilà ce qu'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est le simple évangile. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, ça veut dire pardonne mes péchés, mais maintenant, une fois que je suis à toi, à quelqu'un qui a pardonné nos péchés, comment ne pouvons-nous pas lui donner notre vie à ce sauveur admirable, à ce maître, à celui qui a souffert pour nous, à celui qui a été crucifié, à celui qui a été abandonné du Père à cause de nous, à celui qu'on a humilié, à celui sur qui on a craché sur le visage, celui qui a été bafoué de tant de manières, qui est notre sauveur et qui nous a aimés d'un grand amour. Comment ne pouvons-nous pas lui donner notre vie? N'est-il pas digne d'une consécration totale de notre vie? Il ne peut que seulement prendre nos péchés. Il n'est pas digne de faire qu'on fasse sa volonté. C'est le diable qui peut avoir cela. Puisque si nous vivons pour nous-mêmes, nous vivons pour le diable. Il est digne, mes amis, notre Sauveur, d'être notre Seigneur. Il en est digne. Il en est digne. Amen. Voilà une belle qualité. Est-ce que vous l'avez? Ça commence par là, mes amis. Parce que à partir du moment où il y a cette belle qualité-là, tout le reste va se manifester simplement comme une conséquence de ce qu'on appartient au Seigneur tout entier. Et alors, à partir de ce moment-là, les choses seront beaucoup plus faciles. Ça, c'est le premier pas. C'est celui-là qu'il faut faire si nous voulons aller jusqu'au bout avec le Seigneur et un jour voir sa face, contempler sa face. Nous avons chanté des beaux cantiques. Paroles sont merveilleuses. Mais est-ce qu'un jour tes yeux le verront? Est-ce que tu persévéreras jusqu'au bout? Est-ce que tu abdiques devant lui pour faire sa volonté? Deuxième qualité, Enoch marcha avec Dieu. Marcha. Il avait une marche personnel avec Dieu. Soulignez bien, personnel. Il marcha. C'est lui qui marcha, c'est pas quelqu'un d'autre qui marcha pour lui. C'était donc une marche personnelle. Et cela est un point très important. Avons-nous des racines personnelles? Sans nous en rendre compte, dans notre vie chrétienne, nous dépendons de tant d'autres choses. Nos regards sont sur l'un, sur l'autre, sur tel prédicateur même, ou sur telle personne. On peut être aidé par d'autres personnes, n'est-ce pas vrai? Mais ces autres personnes ne doivent jamais se substituer à une communion personnelle avec le Seigneur. Certains chrétiens s'appuient tellement sur l'un ou sur l'autre que lorsque ces personnes ne sont pas là, ces personnes sont perdues complètement. Il leur faut toujours quelqu'un, comme des béquilles, et elles avancent comme des béquilles. Il faut que lui soit là, elle soit là. Mais d'eux-mêmes, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de communion personnelle. As-tu cette communion personnelle avec le Seigneur? On doit apprendre des autres, c'est vrai. Mais cela ne doit pas empêcher ta communion personnelle. Et vous savez, quand on lit dans Genèse 5 tout le contexte de la vie d'Enoch, je lisais encore, la terre entière était corrompue. La terre était pleine de violence. La méchanceté de l'homme était à un tel point que Dieu avait décidé d'intervenir. Et quelques années plus tard, le déluge venait. Et il était seul. Voyez-vous, on peut vivre seul, même quand le monde est corrompu autour de nous. Quand on a des racines personnelles avec notre Dieu. Amen. Il n'y a pas d'excuse. Ah oui, mais moi, mon petit problème, c'est parce que c'est l'autre qui m'influence. Parce que c'est celui-ci, celle-là. Et on a toujours des raisons pour dire, c'est les autres. Mais Enoch n'avait pas cela. C'était la corruption autour de lui. Mais il était là, verdoyant malgré la sécheresse, pur au sein de l'impureté, parce qu'il avait des racines profondes. Mais trop de chrétiens sont imprégnés de l'esprit du monde, parce qu'ils n'ont pas assez ces racines profondes. Une marche personnelle l'as-tu? Ou alors est-ce que tu dépends constamment des autres? C'est un danger, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Quand tu dois toujours compter sur les autres pour régler un problème dans ta propre vie, quand tu ne peux rien faire par toi-même pour régler quelque chose, un problème spirituel. Si tu as des racines, si tu as une communion personnelle, le Seigneur te parlera. Le Seigneur te montrera comment régler certaines choses. Il marcha avec Dieu. As-tu cette communion? As-tu cette marche personnelle? C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Troisième qualité, Enoch marcha avec. Qu'est-ce que ce mot vous suggère ? Avec. Il avait une relation d'amour avec son Dieu. Il était avec lui. C'était une relation d'amour. Et il nous faut veiller dans ces derniers temps. La Bible dit que, le Seigneur lui-même l'a dit, que dans les derniers temps, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Et l'amour d'un grand nombre de chrétiens se refroidit, mes amis. Nous vivons ce temps-là. L'amour d'un grand nombre. Je vois ici, nous sommes quelques-uns. Eh bien, un jour j'ai lu cette pensée-là. Pour voir la réputation d'une église, il faut venir le dimanche matin. C'est clair. Ça, c'est la réputation de l'église. Pour voir la réputation d'un évangéliste, il faut aller à la réunion d'évangélisation. Là, vous voyez sa réputation à l'évangéliste. Et pour voir la réputation du Seigneur, c'est à la réunion de prière. C'est là qu'on voit la réputation du Seigneur dans une église. C'est pas le dimanche matin, mes amis. C'est pas le dimanche matin. C'est à la réunion de prière. Là. C'est là que le véritable test se manifeste. Enoch marcha avec Dieu. Il y avait donc une relation d'amour. Et quand on suit le Seigneur avec amour, on ne le suit pas avec intérêt. Quand on suit le Seigneur avec amour, il n'y a pas une relation qui fait qu'on le suit par intérêt, mais on le suit par amour. On marche avec lui parce qu'on l'aime. On marche avec lui, on l'aime pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne ou ce qu'il fait. On l'aime pour ce qu'il est. C'est ça le véritable amour. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous aimez votre conjoint uniquement pour ce qu'il ou elle vous donne, vous croyez que ça va durer longtemps, ça? Vous devez aimer votre conjoint pour lui-même, pour elle-même. Si vous ne voulez pas qu'il y ait des histoires. Enoch marcha avec Dieu, donc c'est une relation d'amour absolument désintéressée. C'est pas je t'aime si tu m'aimes, si tu me bénis, si tu me guéris, si tu me fais, si tu me remplis le porte-monnaie, si tu et ceci, cela, voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Ce n'est pas une relation d'amour, ça, c'est une relation commerciale. Tu as appris ça où dans des supermarchés? C'est là-bas que tu as appris ça. Mais va au ciel, c'est pas du tout comme ça, là, au ciel. Il faudrait que tu ailles faire un petit tour là-bas. Lis l'Apocalypse. Ça te changera un peu les idées. Enoch marcha avec une relation d'amour. Il le suivait, non pas pour ce qu'il pouvait recevoir de lui, uniquement parce que c'était Dieu et qu'il l'aimait. Ceux qui iront jusqu'au bout, mes amis, ce sont ceux qui aiment le Seigneur pour lui-même, et non pas pour ce qu'ils peuvent recevoir de lui. Parce que le jour où vous ne recevez plus rien, on vous voit plus, c'est terminé. Parti sans laisser d'adresse. Où il est, où elle est, parti sans laisser d'adresse. On ne les voit plus. Disparaissent. Une relation d'amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Paix, mes brebis. Voyez-vous, avant le service pour le Seigneur attend qu'on l'aime, lui, et que tout ce qu'on fait pour lui doit être fait par amour pour lui, et non pas pour les bénédictions que l'on reçoit dans le ministère. qui doit être prioritaire, c'est notre amour pour lui et un amour désintéressé. Je t'aime parce que je t'aime et parce que tu es Dieu. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Que tu me bénisses ou pas, ça ne vaut rien pour moi. C'est à toi que je suis attaché et non à tes dons. C'est à ta personne, Seigneur. Et non à ce que je peux recevoir de toi. Avons-nous cette relation d'amour? Ou est-ce qu'il y a toujours des petits calculs? D'accord, Seigneur, d'accord. Mais, voilà les mains. D'accord, Seigneur. Mais pas maintenant. Et ces petits calculs, on a toujours sa règle à calculer avec soi. Ah oui, d'accord, bon, d'accord. D'accord, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Mais attends. Doucement. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Paix, mes brebis. Voyez-vous, avant le service pour le Seigneur attend qu'on l'aime, lui, et que tout ce qu'on fait pour lui doit être fait par amour pour lui, et non pas pour les bénédictions que l'on reçoit dans le ministère. Ce qui doit être prioritaire, c'est notre amour pour lui, et un amour désintéressé. Un point, c'est tout. Que tu me bénisses ou pas, ça ne vaut rien pour moi. C'est à toi que je suis attaché et non à tes dons. C'est à ta personne, Seigneur, et non à ce que je peux recevoir de toi. Avons-nous cette relation d'amour? Ou est-ce qu'il y a toujours des petits calculs? D'accord, Seigneur, d'accord. Mais, d'accord, Seigneur, mais pas maintenant. Et ces petits calculs, on a toujours sa règle à calculer avec soi. Ah oui, d'accord, bon, d'accord. D'accord, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Mais attends. Doucement. Il faut d'abord que je t'explique ma situation. Faut que je t'explique. Parce que moi, mon cas est différent. Parce que chacun pense que son cas est différent. Alors, il y a ça. Ah bon? Alors, il faut que le Seigneur règle tout ça pour qu'on l'aime. Une relation d'amour, mes amis, ce sont ceux-là qui iront jusqu'au bout. Parce que parfois, vous aurez l'impression que Dieu est contre vous quand on marche avec Dieu. Certains peuvent nous abandonner, nos meilleurs amis nous abandonneront. Certainement qu'Enoch, il n'était pas gâté de ce côté-là. Et pourtant, il n'avait rien dit. Ce qui comptait pour lui, c'était le Seigneur, c'est tout. Et il allait de l'avant. Beaucoup vous abandonneront peut-être, mais peu importe. Si vous marchez, si votre relation avec le Seigneur est une relation d'amour, rien ne vous arrêtera. Si vous êtes attaché à sa personne plus qu'à ses dons, rien ne vous arrêtera. Pourquoi? Parce que quand on le suit pour lui-même, on le connaît davantage. Et plus on le connaît, plus on l'aime. Et plus on veut aller jusqu'au bout avec lui. Car il est merveilleux. Il est l'incomparable. Alléluia. Allons un peu plus loin. Quatrième qualité, Enoch marcha avec Dieu. Ce n'était pas avec n'importe qui. Écoutez bien, c'est Enoch qui marcha avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui marcha avec Enoch. C'est bien ça dans vos Bibles. Hein? Ce n'est pas Dieu marcha avec Enoch. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est donc la qualité que je veux vous donner maintenant? Enoch marcha avec Dieu. Ça veut dire comment? Ah voilà, exactement, c'est ce que j'avais ici. Il était obéissant à Dieu. Voilà. Enoch, quand on marche avec Dieu, Dieu est Dieu. C'est pas un serviteur. C'est pas le petit bonhomme du coin, là. Et puis qu'on tape sur l'épaule. Et qu'on dit maintenant, là, allez, il faut que tu me fasses ceci. Il faut que tu me donnes ceci. Il faut que tu me donnes cela. Entendre certains chrétiens, quand ils parlent du Seigneur, on a l'impression que c'est le voisin d'à côté. Enoch marcha avec qui? Avec Dieu est Dieu. Et s'il est Dieu, nous devons lui obéir. Ce n'est pas lui qui doit nous obéir. C'est nous qui devons lui obéir. Il ne faut pas inverser les rôles. Et beaucoup de chrétiens ont inversé les rôles. Voilà pourquoi ils sont bloqués là où ils sont. Ils attendent que Dieu fasse quelque chose. Ah bon? C'est Dieu qui doit. C'est lui qui ne fait pas son travail? Ah bon, il ne fait pas son travail? Il est où, en vacances? C'est toi qui es en vacances, c'est pas lui. On est souvent en vacances, nous. Dieu est Dieu. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu, mes amis. Vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Dieu est Dieu. Il ne se laissera jamais manipuler par qui que ce soit. Et ce ne sont pas les ultimatums que l'on lance à Dieu qui le fera bouger. Il y a des chrétiens qui savent bien faire. Des ultimatums, ils envoient à Dieu. Tu as 15 jours. Dans 15 jours, si ça ne marche pas, terminé. C'est terminé. 15 jours. Pas une seconde de plus. Ah bon? Qui est de l'autre côté? C'est qui? C'est le directeur d'une fabrique? C'est qui? Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Mes amis, il faut être conscient que Dieu est Dieu, que le Seigneur est Dieu, et que nous devons faire sa volonté. C'est pas lui qui doit faire la nôtre. C'est nous qui devons faire sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Avons-nous compris ces choses? Est-ce que ça fait partie de nous-mêmes? Ou alors quand quelque chose, nous avons demandé quelque chose au Seigneur et que ça se fait pas comme on le veut, qu'on commence à rouspéter, à se déprimer même, et à dire, ça y est, le Seigneur ne m'aime plus, le Seigneur m'a abandonné. Il t'aime toujours. Il ne t'a jamais abandonné. Il faut que tu saches qu'il est Dieu. C'est pas lui qui doit se soumettre à toi. C'est toi qui dois te soumettre à lui. Parce qu'il est Dieu. C'est quand tu te soumets à lui que tu es véritablement libre. Amen. Tant que tu fais ta volonté, tu es esclave de toi-même. Celui qui vit pour lui-même est esclave de lui-même. Mais celui qui vit pour Dieu est libre. Mais libre pour quoi? Pour faire ce qu'il veut? Non. Libre pour faire la volonté de Dieu. Et plus il fait la volonté de Dieu, plus il est libre. Il était obéissant, mes amis. Le Seigneur veut trouver en nous cette obéissance-là. Et pas seulement quand ça nous arrange. Parce que Dieu nous testera si vraiment nous sommes obéissants. Il nous testera en nous demandant des choses qui nous dérangent un petit peu pour voir si on est obéissant. Pas seulement des choses qui nous arrangent, parce que quand on fait quelque chose qui ne nous dérange pas, est-ce qu'on montre un esprit d'obéissance? Non. Vous montrez un esprit d'obéissance quand il y a une opposition, une contradiction, quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais vous dites, Seigneur, je le ferai quand même, parce que tu me le dis. Ça me dérange, mais ce n'est pas ce qui compte. C'est ce que tu veux. Là, vous manifestez un esprit d'obéissance. Et Dieu vous testera. Il le fera. Parce qu'il veut vous apprendre à obéir. Car c'est dans l'obéissance qu'il y a le chemin de la bénédiction. Et de la paix. Et je termine. Enoch marcha avec Dieu. Combien? 300 ans. Quelle est la qualité? Là, vous allez la trouver tout de suite. Il était 300 ans. Je réfléchissais tout à l'heure. 300 ans! Trois vies! On vit à peu près, ceux qui vivent 100 ans ici, bah, ils sont déjà, ils vivent déjà bien. Imaginez-vous, trois fois 100! Et il marcha comme ça, trois fois 100 années. Quelle persévérance! Mais le miracle, c'est ça. C'est quand on est attaché à Dieu, quand nos racines sont en lui. Voyez-vous, le temps n'existe plus. L'impossible devient possible. Ce que nous ne pouvons pas faire est possible avec le Seigneur. 300 ans. Et rien ne l'a arrêté. Il y avait bien sûr sûrement des combats, peut-être des moments de découragement, mais il a persévéré. Mes amis, c'est pas le tout de bien commencer, il faut encore bien finir. avec le Seigneur. Beaucoup de gens commencent bien, mais finissent très mal. Vous les voyez au début de leur vie chrétienne, oh là là, extraordinaire, ça, voilà, on a l'impression qu'ils vont tout démonter, là, ici. Un mois après, dès qu'il y a la petite difficulté, dès que quelqu'un les critique, dès que quelqu'un un peu les ignore, c'est fini, la dépression, elle commence. Ils entrent dans le tunnel et ils n'en sortent plus. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans le tunnel, ils ne sont pas encore sortis de l'autre bout. Où il est? Ben, il est toujours dans le tunnel. Quand est-ce qu'il est rentré dans le tunnel? Ben, ça fait 20 ans à peu près. Et quand est-ce qu'il va en sortir? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Ils ont tellement vécu dans le tunnel qu'ils habitent dans le tunnel maintenant. 300 ans. Et nous, à la moindre opposition, la moindre critique, on baisse les bras. Ah, ah, Seigneur, ah, ils m'ont abandonné. Ah, Seigneur, il m'a dit une mauvaise parole. Non, je ne suis pas d'accord. Non, si c'est ça, j'en vais tout promener. Vous croyez qu'on ira loin avec ça? Dites-moi, vous croyez qu'on va aller loin avec ça? Oh, il m'a regardé un peu de travers. Oh, ce matin, il m'a regardé de travers. Tel frère, telle soeur. Oh, il m'a regardé de travers. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, je ne suis pas d'accord. Ah non, non, je ne peux pas supporter ça. Et ça y est, ça commence. Il rentre dans le tunnel aussi. Espérons qu'il va en sortir assez vite, mais ça ne va pas durer 20 ans. C'est la catastrophe. Ah non, non, là, 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 je ne suis pas d'accord. Ça y est, on n'en finit plus. La moindre adversité, opposition, ça y est, on trouve un prétexte pour s'arrêter, pour dévier, pour faire n'importe quoi. Mais savez-vous que Dieu vous teste dans tout cela? L'autre qui vous a fait quelque chose qui n'était pas bien, d'accord, c'est pas bien. Le Seigneur s'occupera de la personne. On ne peut pas dire que c'est bien quand l'autre vous fait la tête. C'est pas bien. Mais avec cela, Dieu vous teste aussi. L'autre aura une leçon à apprendre, c'est évident. Mais vous avez, vous aussi, une leçon à apprendre, à savoir bien réagir, à utiliser vos épreuves, vos difficultés, à aller de l'avant et à dire, bon, ma Seigneur, c'est comme ça, bon, on est encore sur la terre. On n'est pas encore au ciel. Je ne vais pas me laisser arrêter par qui que ce soit. C'est toi que je suis, Seigneur, et non pas un homme ou une femme. On n'est pas encore au ciel. Et personne ne m'arrêtera. Et Enoch était comme cela. Personne. Il était décidé d'aller jusqu'au bout. 300 ans. 300! Est-ce possible? Quand on marche avec Dieu. Si on ne marche pas avec Dieu, 300 jours sont impossibles à accomplir. Mais avec le Seigneur, 300 ans, la persévérance. Quand on est décidé à persévérer, eh bien, c'est déjà une grande victoire. Êtes-vous décidé à persévérer? Coûte que coûte. Peu importe l'un ou l'autre qui n'a pas fait ce que vous attendiez qu'il fasse, et vous avez toujours fait ce que l'autre attendait. Ah, ça, j'ai pas pensé à ça. On pense toujours à ce que l'autre devrait nous faire. Mais nous, à ce qu'on devrait faire aux autres. Le Seigneur m'a montré que tu devais faire ceci. Oui, on a des révélations pour que ce que les autres doivent nous faire. Le Seigneur m'a montré que tu dois t'occuper de moi. Et il t'a pas montré que tu dois t'occuper de l'autre. Ah non, non, j'ai pas cette révélation. Ils ont toujours la révélation, c'est les autres qui doivent faire quelque chose. Ah oui, puis attendez, ils sont sérieux quand ils parlent. Seigneur m'a montré que, ah bon? Oula, c'est sérieux comme ça? C'est si sérieux que ça? Et pour faire les autres, toi, il t'a montré quelque chose? Ah ben, j'ai pas eu de révélation encore. Voilà. Voilà où on en est. 300 ans. Mes amis, nous devons persévérer jusqu'à ce qu'il revienne. Il revient bientôt. Que personne ne vous arrête. Parce que vous n'aurez aucune excuse là-haut. Vous ne pourrez pas dire, oh Seigneur, c'est à cause de tel frère, telle sœur, tel homme, tel directeur, tel je ne sais qui, n'importe qui. Bon, tu te rends compte, Seigneur, ce qu'il... Comment tu te rends compte? Ah, tu crois que je ne savais pas ça? Le Seigneur te teste au travers de tout cela. Pour voir si tu veux le suivre jusqu'au bout. C'est un test. Alors, puissions-nous utiliser ces tests pour dire, Seigneur, eh bien, moi, je ne me laisse pas arrêter. Certains se laissent arrêter, ils rentrent dans le tunnel. Moi, je ne veux pas aller dans le tunnel avec eux. Moi, je veux monter avec toi au ciel. Je veux aller jusqu'au bout. Me voici, Seigneur. 300 ans. Nous, on va marcher 100 ans en plus, si on va jusqu'au bout. Mais le Seigneur, là, il sera certainement revenu. On l'espère. Alors, on n'a aucune excuse. Lui, 300 ans. Et nous, trois fois moins de temps. Si on vit encore 100 ans. Donc, il n'y a aucune excuse. Persévérons. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puisse le Seigneur gravir en nous ces belles qualités d'Enoch. Être enlevé lorsque le Seigneur reviendra. Il revient sur les nuées du ciel, avec les anges de sa gloire. Il revient bientôt, celui qu'on a rejeté ici-bas, celui qui est considéré comme quelqu'un qu'on ne veut pas. Un jour, il prendra les rênes de ce monde, et il dira, c'est assez maintenant. La comédie a assez duré. C'est le temps du jugement qui viendra. Avant que le jugement n'arrive, blottissons-nous dans les bras de notre Seigneur. Il revient bientôt. Attendons-le de tout notre cœur, avec ses belles qualités d'Enoch. Que Dieu vous bénisse.
Quel bonheur de servir un maître tel que lui, un Seigneur tel que lui. Et je suis toujours émerveillée de voir sa bonté, sa compassion, sa fidélité, qui ne change jamais. Quand il est dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il n'est pas seulement question de sa puissance, mais il est aussi question de son amour, de sa miséricorde, de sa compassion, de sa fidélité. Oh Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu n'as jamais changé, parce que ta compassion n'a jamais changé. Et je voudrais partager avec vous ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, il y a eu à Saint-Jérôme, nous avons eu plusieurs soirées, plusieurs journées, plusieurs réunions. Et hier soir, il y a eu l'occasion de rendre témoignage de ceux et celles qui ont été touchés par le Seigneur au niveau des guérisons. Et je voudrais rendre gloire au Seigneur et le remercier pour ce qu'il a fait pour une certaine dame qui est venue à la soirée des dames le dimanche soir à Saint-Jérôme et qui a été touchée par le Seigneur et qui était dans une grande angoisse parce que dans sa famille, plusieurs personnes sont mortes du cancer des intestins. Et cette femme avait un problème d'intestin, une douleur terrible. Et à la fois une angoisse aussi. Et puis elle a dit en pleurant hier soir qu'elle était bloquée depuis 5 jours. Elle a vraiment eu peur. Dimanche soir est venue cette parole de connaissance du Seigneur disant qu'il touchait quelqu'un qui avait un problème aux intestins. Et cette femme a été touchée et la douleur est partie. Elle est venue rendre témoignage hier soir. Que le Seigneur en soit béni, glorifié. Je veux le remercier de tout mon cœur. Chaque fois que le Seigneur voit une de ses brebis souffrantes qui crie à lui, j'insiste là-dessus, il ne manque pas de répondre, parce qu'il est toujours ému de compassion devant la souffrance de ses enfants. Il n'a pas changé à ce niveau-là, il est toujours le même. Une autre parole a été donnée aussi, que quelqu'un souffrait de la hanche, c'était elle aussi, et elle a été touchée à 2 endroits. Elle a été complètement libérée de toute douleur et aux intestins et à l'hanche. Alléluia, Seigneur, merci. Je vais partager cela parce que ça s'est passé il y a 3 jours, dimanche soir, cela. Et hier soir, L'occasion a été donnée de rendre témoignage. Une autre dame a été guérie de douleurs dans le genou. Une autre dame dans la jambe gauche. Et puis, une autre chose. C'était samedi, à Saint-Jérôme toujours, une dame vient me dire « Le Seigneur m'a touchée quand vous étiez, il y a 5 ou 6 ans, à Shawinigan. » Elle n'a jamais eu l'occasion de me le dire. Elle est venue, là, c'est samedi, là, il y a 3-4 jours, me dire que il y a donc 5-6 ans, quand nous étions à Shawinigan, le Seigneur l'a touchée. Elle avait un problème dans les lombaires, dans la colonne vertébrale. Et quand cette parole de connaissance est venue, que quelqu'un souffrait dans le bas de son dos, et que la main du Seigneur était sur elle, alors cette femme a été touchée, et elle est venue le dire maintenant, 5 ou 6 ans après. Merci Seigneur, parce que ce que tu fais est bien fait. Alléluia Seigneur, tu es le vivant, et tu ne changes pas. Et juste avant de venir ici au Canada, peut-être quelques jours avant, je ne me rappelle plus combien de temps avant que nous partions. Nous sommes partis le 3 septembre de France. Juste un peu avant, nous avons eu un téléphone d'une dame qui n'a jamais eu l'occasion de nous le dire, mais qui a été guérie il y a 15 ans en arrière et qui est toujours guérie. C'était une femme qui avait une hépatite virale chronique. Donc, elle était toute jaune, sa peau était jaune, ses yeux jaunes, tout est jaune quand on a une hépatite. Moi, j'en ai une, j'ai été guérie par le Seigneur aussi. Je sais ce que c'est. Et cette femme est venue à une de nos rencontres en France. Elle était donc atteinte de cette maladie, pratiquement incurable, les médecins ne savaient plus bien quoi faire. Et à un moment donné, cette parole de connaissance a été donnée que quelqu'un souffrait d'une hépatite virale et cette dame a été touchée. Elle a été complètement libérée de son hépatite virale il y a 15 ans. Quand elle est retournée chez elle, elle est allée chez son esthéticienne. Et puis son esthéticienne, quand elle l'a vue arriver, lui a dit « Mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait avec votre peau ?» Et puis elle l'a raconté. Ce qui s'est passé, je suis allée à une réunion chrétienne et c'est le Seigneur, c'est Dieu qui m'a touchée, c'est Dieu qui m'a guérie. Alors elle a eu une première occasion de rendre témoignage à son esthéticienne. Ensuite, elle est allée chez son docteur et le docteur était tout époustouflé de la voir arriver toute avec une peau tout à fait normale et il a fait des examens et il a dit « Il n'y a plus de problème, vous êtes complètement guérie, vous n'avez plus besoin de venir me voir ». Et puis, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Et cela, il y a 15 ans en arrière, et elle a dit, je n'ai plus jamais eu aucun problème de foie et d'hépatite. Depuis 15 ans. Alléluia. Quand le Seigneur guérit, parce qu'il est toujours le médecin, je suis l'Éternel qui te guérit. Et il nous le dit ce soir encore, je suis l'Éternel qui te guérit. Si nous le croyons, nous le verrons s'accomplir. Si nous nous approchons de lui, si nous crions à lui, il est là pour nous entendre, il est là pour répondre à nos cris. Il y a une autre dame, aussi ces dernières semaines, qui nous a appelés. Elle a été touchée par le Seigneur il y a 20 ans. C'est extraordinaire, ça nous encourage beaucoup parce que parfois, on ne le sait pas, on l'apprend 20 ans après. C'est merveilleux. Et cette dame, elle a téléphoné, elle habite la région de Genève. Elle était venue il y a 20 ans à notre convention chrétienne. Et elle était là, assise dans les rangs. Et le Seigneur, par des paroles de connaissance, en donnait plusieurs. Et puis, parmi une de ces paroles, il y avait... Le Seigneur guérit ceux qui ont des problèmes d'asthme. Et là, cette dame avait des crises d'asthme, mais à en mourir. Son mari, parfois, elle était obligée de se lever la nuit, s'asseoir au bord de son lit, et son mari la soutenir, l'aider à respirer, parce que sinon, elle a été hospitalisée en pleine nuit plusieurs fois, parce qu'elle était en danger de mort, et donc c'était très très grave son cas. Et cette dame était à la réunion, et cette parole est venue. Elle a même pas pensé à elle-même. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu plusieurs mamans qui sont venues avec des enfants dans leurs bras, qui avaient des problèmes d'asthme. Et en voyant les mamans s'avancer avec leurs bébés, cette dame atteinte d'asthme s'est mise à prier pour ses enfants qui étaient là pour venir. Et au moment où elle a prié pour ses enfants, la puissance de Dieu est venue sur elle, l'a touchée, elle, à sa place, à tel point qu'elle a senti, qu'elle a senti comme un souffle, comme du vent qui venait sur elle, et elle s'est retournée, à tel point c'était réel, elle s'est retournée, elle a regardé si la porte était ouverte, s'il y avait un courant d'air. Pas de courant d'air, parce que c'est pas possible, parce que tout était fermé. Donc, après elle s'est dit, je vais regarder derrière moi, qui est-ce qui est derrière moi? C'était une femme qui était en prière, elle a cru qu'elle lui avait soufflé dessus. Rien de tout ça, elle est rentrée à la maison, et son beau-frère étant médecin, l'avait cherché à la soigner, sans résultat, et elle a été complètement guérie, médicalement attestée. Son beau-frère a confirmé sa guérison, et cela, il y a 20 ans, elle n'a plus jamais eu des problèmes d'asthme. Alléluia! À Jésus, la gloire, la puissance pour de telles interventions. Alléluia, Seigneur. Ta compassion est grande, Seigneur. Nous sommes toujours émerveillés d'une compassion pareille. Seigneur, nous ne savons pas ce que c'est que la compassion vraiment. Il faut te voir agir pour le voir. Et nous voulons te bénir parce que tu n'as jamais changé. Ce que tu as fait il y a 20 ans, ce que tu as fait il y a 15 ans, ce que tu as fait il y a 6 ans et ce que tu as fait hier soir ou il y a 3 jours, tu le fais aujourd'hui encore parce que tu es toujours le même et tu nous aimes. Et nous voulons te louer, t'adorer. Et tu aimes chacun d'entre nous. Et tu as quelque chose à nous dire à chacun. Nous voulons rester dans ta présence. Ouvrir nos cœurs, nos esprits, à l'action de ton esprit, à l'enseignement de ta parole. Seigneur, parle, nous voulons t'écouter. Notre âme aussi a besoin de guérison souvent. Nous voulons aussi que tu guérisses notre âme, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être là, ce soir avec nous, et de nous parler et de nous toucher selon nos besoins. Amen.
Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ta compassion. Et nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Toi seul peux faire de si merveilleuses choses. Tu nous montres par là que tu es vivant, que tu n'es pas loin de nous. Tu n'es pas loin de ceux qui t'invoquent d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Seigneur, merci.